Audioli présente
Une vie sans fin de Frédéric Becbédé.
Lu par Jonathan Lambert.
À Chloé, Lara et Una. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Missel de la messe catholique. Nous aimons la mort autant que vous aimez la vie. Oussama Ben Laden. Serait-il 995 millions et moi tout seul, c'est eux qui ont tort, Lola. Et c'est moi qui ai raison. Parce que je suis le seul à savoir ce que je veux. Je ne veux plus mourir. Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit. Petite précision ayant son importance. La différence entre la fiction et la réalité, c'est que la fiction doit être crédible, dit Mark Twain. Mais que faire quand la réalité ne l'est plus? La fiction est aujourd'hui moins folle que la science. Voici un ouvrage de science non-fiction. Un roman dont tous les développements scientifiques ont été publiés dans Science ou Nature. Les entretiens avec des médecins, chercheurs, biologistes et généticiens réels y sont retranscrits tels qu'ils ont été enregistrés au cours des années 2015 à 2017. Tous les noms de personnes ou d'entreprises, adresses, découvertes, start-up, machines, médicaments et établissements cliniques mentionnés existent bel et bien. J'ai seulement changé les noms de mes proches pour ne pas les embarrasser. En démarrant cette enquête sur l'immortalité de l'homme, jamais je n'aurais imaginé où elle me mènerait. L'auteur décline toute responsabilité quant aux conséquences de ce livre sur l'espèce humaine, en général, et la durée de vie de son lecteur, en particulier. Frédéric Becbédé. Chapitre 1. Mourir n'est pas une option. La mort, c'est stupide. Francis Bacon à Francis Giacobetti, septembre 1991. Si le ciel est dégagé, on peut voir la mort toutes les nuits. Il suffit de lever les yeux. La lumière des astres défunts a traversé la galaxie. Des étoiles lointaines, disparues depuis des millénaires, persistent à nous envoyer un souvenir dans le firmament. Il m'arrive de téléphoner à quelqu'un que l'on vient d'enterrer et d'entendre sa voix, intacte, sur sa boîte vocale. Cette situation provoque un sentiment paradoxal. Au bout de combien de temps la luminosité diminue-t-elle quand l'étoile n'existe plus? Combien de semaines met une compagnie téléphonique à effacer le répondeur d'un cadavre? Il existe un délai entre le décès et l'extinction. Les étoiles sont la preuve qu'on peut continuer de briller après la mort. Passé ce light gap, arrive forcément le moment où l'éclat d'un soleil révolu vacille comme la flamme d'une bougie sur le point de s'éteindre. La lueur hésite, l'étoile se fatigue, le répondeur se tait, le feu tremble. Si l'on observe la mort attentivement, on voit que les astres absents scintillent légèrement moins que les soleils vivants. Leur halo faiblit, leur chatoiement s'estompe. L'étoile morte se met à clignoter comme si elle nous adressait un message de détresse. Elle s'accroche. Ma résurrection a commencé à Paris, dans le quartier des Attentats, le jour d'un pic de pollution aux particules fines. J'avais emmené ma fille dans un néo-bistrot nommé Jouvence. Elle mangeait une assiette de saucisson de Bellota et je buvais un Hendrix tonic concombre. Nous avions perdu l'habitude de nous parler depuis l'invention du smartphone. Elle consultait ses WhatsApp pendant que je suivais des top modèles sur Instagram. Je lui ai demandé ce qu'elle aimerait le plus comme cadeau d'anniversaire. Elle m'a répondu « un selfie avec Robert Pattinson ». Ma première réaction fut l'effarement. Mais à bien y réfléchir, dans mon métier d'animateur de télévision, je réclame aussi des selfies. Un type qui interroge des acteurs, des chanteurs, des sportifs et des hommes politiques devant des caméras